La Navidad llegó a The Home Depot. Encuentra el arbolito perfecto en nuestra enorme variedad de estilos, formas y tamaños. Como el arbolito fácil de armar Jackson Noble, con ramas preiluminadas, en un 2x3 lo tienes listo para decorar. O el Starry Light Flocked, con más de 1,900 ramas preiluminadas de alambre con memoria que mantienen su forma para que esté listo en cuanto sale de la caja. Encuentra el arbolito perfecto para tu espíritu navideño en The Home Depot. Haces más, logras más.
La cafetière de contes humoristiques. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant février 2015. Conte fantastique de Théophile Gautier. Angela ou la cafetière. J'ai vu sous de sombres voiles 11 étoiles, la lune, aussi le soleil, me faisant la révérence, en silence, tout le long de mon sommeil. La vision de Joseph. Partie 1. L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Coic et Pedrino Borgnoli, a passé quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui à notre départ promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes, et par sa pesanteur ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, avoir les dessus de portes de boucher représentant les quatre saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocaille du plus mauvais goût, et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peigne, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleurs changeantes, un éventail semé de paillettes d'argent jonchait le parquet bien ciré, et, à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquai ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eût souhaité un bon somme, et, je l'avoue, je commençai à trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me couchai, et, pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague. Mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque, et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna 11 heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps, et lorsqu'il fut éteint tout à fait, oh non, je n'ose pas dire ce qui arriva, personne ne me croirait, et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée, et se dirigea, clopin-clopant, vers le foyer où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler, et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Partie 2. Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, ressemblant, à s'y méprendre, à l'idée que je me suis faite du vieux Sir John Falstaff, sorti en grimaçant la tête de son cadre, et, après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les ais étroits de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plutôt pris haleine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la fourrure était bien nette, et il l'appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Et tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu'ils renfermaient. Petits abbés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l'air grave ensevelis dans de grandes robes noires, petits maîtres en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que, malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent. La cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues, qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munie d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasse, cafetière et cuillère disparurent à la fois, et la conversation commença. Certes, la plus curieuse que j'ai jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre l'aiguille qui marchait vers minuit à pas imperceptibles. Enfin, minuit sonna. Une voix, dont le timbre était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit
« Voici l'heure, il faut danser !»
Toute l'assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leur propre mouvement. Alors, chaque cavalier prit la main d'une dame, et la même voix dit
« Allons, messieurs de l'orchestre, commencez !»
J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté, et de l'autre une chasse aux cerfs où plusieurs valets donnaient du corps. Les piqueurs et les musiciens, qui jusque-là n'avaient fait aucun geste, inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Le maestro leva sa baguette, et une harmonie vive et dansante s'élança des deux bouts de la salle. On dansa d'abord le menuet. Mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s'accordaient mal avec ces graves révérences. Aussi, chaque couple de danseurs, au bout de quelques minutes, se mit à pirouetter comme une toupie d'Allemagne. Les robes de soie des femmes, froissés dans ce tourbillon dansant, rendaient des sons d'une nature particulière. On aurait dit le bruit d'ailes d'un vol de pigeons. Le vent qui s'engouffrait par-dessous les gonflait prodigieusement, de sorte qu'elles avaient l'air de cloches en branle. L'archet des virtuoses passait si rapidement sur les cordes qu'il en jaillissait des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient comme s'ils eussent été de vif argent. Les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons. Et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressés et de gammes ascendantes et descendantes si entortillées, si inconcevables, que les démons eux-mêmes n'auraient pu 2 minutes suivre une pareille mesure. Aussi, c'était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper la cadence. Ils sautaient, cabriolaient, faisaient des ronds de jambes, des jetés battus et des entrechats de 3 pieds de haut, tant que la sueur, leur coulant du front sur les yeux, leur emportait les mouches et le phare. Mais ils avaient beau faire, l'orchestre les devançait toujours de 3 ou 4 notes. La pendule sonna 1 heure. Ils s'arrêtèrent. Je vis quelque chose qui m'était échappé. Une femme qui ne dansait pas. Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée. Et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mes yeux. Une peau d'une blancheur éblouissante, des cheveux d'un blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes que je voyais son âme à travers aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau. Et je sentis que si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait elle. Je me précipitai hors du lit, d'où jusque-là je n'avais pu bouger, et je me dirigeai vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je pusse m'en rendre compte. Et je me trouvai à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant avec elle comme si je l'eusse connue depuis 20 ans. Mais, par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquai d'une oscillation de tête la musique qui n'avait pas cessé de jouer, et, quoique je fusse au comble du bonheur d'entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle. Cependant, je n'osais lui en faire la proposition. Il paraît qu'elle comprit ce que je voulais, car, levant vers le cadran de l'horloge la main que je ne tenais pas,
« Quand l'aiguille sera là, nous verrons, mon cher Théodore. »
Je ne sais comment cela se fit. Je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi appelé par mon nom. Et nous continuâmes à causer. Enfin, l'heure indiquée sonna. La voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre et dit
« Angela, vous pouvez danser avec monsieur, si cela vous fait plaisir. Mais vous savez ce qui en résultera. »
« N'importe !»
répondit Angela d'un ton boudeur, et elle passa son bras d'ivoire autour de mon cou.
« Prestissimo !» cria la voix.
Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine. Sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier. Mon sang coulait dans mes artères en torrent de lave, et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant, cet état n'avait rien de pénible. J'étais inondé d'une joie ineffable, et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi. Et, chose remarquable, quoique l'orchestre eût triplé de vitesse, nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo et frappaient de toute leur force dans leurs mains qui ne rendaient aucun son. Angela, qui jusqu'alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes, parut tout à coup se fatiguer. Elle pesait sur mon épaule comme si les jambes lui eussent manqué. Ses petits pieds, qui une minute auparavant effleurait le plancher, ne s'en détachaient que lentement, comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb.
« Angela, vous êtes lasse !» lui dis-je. « Reposons-nous. »«
Je le veux bien, »
répondit-elle en s'essuyant le front avec son mouchoir.
« Mais pendant que nous valsions, ils se sont tous assis. Il n'y a plus qu'un fauteuil, et nous sommes deux. »«
Qu'est-ce que cela fait, mon bel ange ?
Je vous prendrai sur mes genoux. »
Partie 3. Sans faire la moindre objection, Angéla s'assit, m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme un marbre. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature. Je n'avais plus aucune idée de l'heure ni du lieu. Le monde réel n'existait plus pour moi, et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus. Mon âme, dégagée de sa prison de boue, nageait dans le vague et l'infini. Je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre, les pensées d'Angéla se révélant à moi sans qu'elle eût besoin de parler, car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre, et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. L'alouette chanta. Une lueur pâle se joua sur les rideaux. Aussitôt qu'Angéla l'aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d'adieu, et après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi d'effroi, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige rien que d'y penser. Je ne trouvai rien que la cafetière brisée en mille morceaux. À cette vue, persuadé que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique, une telle frayeur s'empara de moi que je m'évanouis. Partie 4. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arrigo Cohic et Pedrino Borgnioli se tenaient debout à mon chevet. Aussitôt que j'eus ouvert les yeux, Arrigo s'écria « Ah ! Ce n'est pas dommage. Voilà bientôt une heure que je te frotte les tempes d'eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit ? Ce matin, voyant que tu ne descendais pas, je suis entré dans ta chambre et je t'ai trouvé tout du long étendu par terre. » En habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisée, comme si c'eût été une jeune et jolie fille. « Pardieu, c'est l'habit de noces de mon grand-père !» dit l'autre en soulevant une des basques de soie fond rose à ramage vert. « Voilà les boutons de strass et de filigrane qu'il nous vantait tant. Théodore l'aura trouvé dans quelque coin et l'aura mis pour s'amuser. Mais à propos de quoi t'es-tu trouvé mal ?» ajouta Borgnioli. « Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On la délace, on lui ôte ses colliers et son écharpe, et c'est une belle occasion de faire des minauderies. « Ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris, je suis sujet à cela, » répondis-je sèchement. Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement, et puis l'on déjeuna. Mes trois camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus. Moi, je ne mangeais presque pas. Le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions. Le déjeuner fini, comme il pleuvait à verse, il n'y eut pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Borgnioli tambourina des marches guerrières sur les vitres. Arrigo et l'hôte firent une partie de dame. Moi, je tirai de mon album un carré de vélin et je me mis à dessiner. Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représenter avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit. « C'est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angéla !» dit l'hôte qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angéla.
« De par tous les saints du paradis, est-elle morte ou vivante ? » m'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse.
« Elle est morte, il y a 2 ans, d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. Hélas !» répondis-je douloureusement. Et, retenant une larme qui était près de tomber, je replaçai le papier dans l'album. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre. Fin de la cafetière, conte fantastique de Théophile Gautier. Enregistré par Zeku à tourner en Belgique durant février 2015. Laquelle des deux ? De contes humoristiques. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par Zeco à tournée en Belgique durant février 2015. Contes humoristiques de Théophile Gautier. Laquelle des deux ? Histoire perplexe. L'hiver dernier, je rencontrais assez souvent dans le monde deux sœurs, deux Anglaises. Quand on voyait l'une, on pouvait être sûr que l'autre n'était pas loin. Aussi les avait-on nommées les belles inséparables. Il y en avait une brune et une blonde. Et quoique sœurs jumelles, elles n'avaient de commun qu'une seule chose, c'est qu'on ne pouvait les connaître sans les aimer, car c'étaient bien les deux plus charmantes et, en même temps, les deux plus dissemblables créatures qui se soient jamais rencontrées ensemble. Cependant, elles paraissaient s'accorder le mieux du monde. Je ne sais pas si, par un pur instinct de jeune fille, elles avaient compris les avantages du contraste, ou bien s'il existait entre elles une véritable amitié. Toujours est-il qu'elles se faisaient valoir l'une l'autre merveilleusement bien, et je pense qu'au fond, c'était le motif de leur union apparente. Car il me semble bien difficile que deux sœurs du même âge, d'une beauté égale quoique différente, ne se haïssent pas cordialement. Il n'en était pas ainsi, et les deux adorables filles étaient toujours côte à côte dans le même coin du salon, s'épaulant l'une à l'autre avec une gracieuse familiarité, ou à demi couchées sur les coussins de la même causeuse. Elles se servaient d'ombre et ne se quittaient pas une seule minute. Cela me paraissait bien étrange et faisait le désespoir de tous les fashionables du cercle, car il était impossible de dire un mot à Musidora que Clary ne l'entendît. Il était impossible de glisser un billet dans la petite main de Clary sans que Musidora s'en aperçût. C'était vraiment insoutenable. Les deux petites s'amusaient comme deux folles qu'elles étaient de toutes ces tentatives infructueuses, et prenaient un malin plaisir à les provoquer et à les détruire ensuite par quelque saillie enfantine ou quelque boutade inattendue. Il faisait beau voir, je vous jure, la mine piteuse et décontenancée des pauvres dandies, forcés de rengainer leur madrigal ou leur épître. Mon ami Ferdinand fut tellement étourdi de la déconvenue qu'il en mit 8 jours sa cravate aussi mal qu'un homme marié. Moi, je faisais comme les autres. J'allais papillonner autour des deux sœurs, m'en prenant tantôt à Clary, tantôt à Musidora, et toujours sans succès. Je m'étais tellement dépité qu'un certain soir j'eus une sérieuse envie de me faire sauter ce qui me restait de cervelle. Ce qui m'empêcha de le faire, ce fut l'idée que je laisserais la place libre au gilet de Ferdinand, et cette réflexion judicieuse que je ne pourrais pas essayer l'habit que mon tailleur devait m'apporter le lendemain. Je remis mes projets de suicide à une autre fois, mais, en vérité, je ne sais pas encore aujourd'hui si j'ai bien fait ou mal fait. En examinant bien mon cœur, je fis cette horrible découverte que j'aimais à la fois les deux sœurs. Oui, madame, cela est vrai, quoique ce soit abominable, et peut-être même parce que c'est abominable, toutes les deux. Je vous entends d'ici dire, en faisant votre jolie petite moue, le monstre. Je vous assure que je suis pourtant le plus inoffensif garçon du monde. Mais le cœur de l'homme, quoiqu'il ne soit pas à beaucoup près aussi singulier que celui de la femme, est encore une bien singulière chose, et nul ne peut répondre de ce qui lui arrivera, pas même vous, madame. Il est probable que, si je vous avais connu plus tôt, je n'aurais aimé que vous, mais je ne vous connaissais pas. Clary était grande et svelte comme une Diane antique. Elle avait les plus beaux yeux du monde, des sourcils qu'on aurait pu croire tracés au pinceau, un nez fin et hardiment profilé, un teint d'une pâleur chaude et transparente, les mains fines et correctes, le bras charmant, quoiqu'un peu maigre, et les épaules aussi parfaites que peut les avoir une toute jeune fille, car les belles épaules ne naissent qu'à 30 ans. Bref, c'était une vraie Perry. Avais-je tort? Musidora avait des chairs diaphanes, une tête blonde et blanche, et des yeux d'une limpidité angélique, des cheveux si fins et si soyeux qu'un souffle les éparpillait et semblait en doubler le volume. Avec cela, un tout petit pied et un corsage de guêpe. On l'aurait prise pour une fée. N'avais-je pas raison? Après un second examen, je fis une découverte bien plus horrible encore que la première. C'est que je n'aimais ni Clary, ni Musidora. Clary seule ne me plaisait qu'à moitié. Musidora, séparée de sa sœur, perdait presque tout son charme. Quand elles étaient ensemble, mon amour revenait, et je les trouvais toutes deux également adorables. Ce n'était pas de la brune ou la blonde que j'étais épris. C'était de la réunion de ces deux types de beauté que les deux sœurs résumaient si parfaitement. J'aimais une espèce d'être abstrait qui n'était pas Musidora, qui n'était pas Clary, mais qui tenait également de toutes deux. Un fantôme gracieux né du rapprochement de ces deux belles filles, et qui allait voltigeant de la première à la seconde, empruntant à celle-ci son doux sourire, à celle-là son regard de feu, corrigeant la mélancolie de la blonde par la vivacité de la brune, en prenant à chacune ce qu'elle avait de plus choisi, et complétant l'une par l'autre, quelque chose de charmant et d'indescriptible qui venait de toutes les deux, et qui s'envolait dès qu'elles étaient séparées. Je les avais fondues dans mon amour, et je n'en faisais véritablement qu'une seule et même personne. Dès que les deux sœurs eurent compris que c'était ainsi et pas autrement que je les aimais, elles eurent compris cela bien vite. Elles me reçurent mieux et me témoignèrent à plusieurs reprises une préférence marquée sur tous mes rivaux. Ayant eu l'occasion de rendre quelques services assez importants à la mère, je fus admis dans la maison et bientôt compté au nombre des amis intimes. On y était toujours pour moi. J'allais, je venais, on ne m'appelait plus que par mon nom de baptême. Je retouchais les dessins des petites. J'assistais à leurs leçons de musique. On ne se gênait pas devant moi. C'était une position horrible et délicieuse. J'étais aux anges et je souffrais le martyre. Pendant que je dessinais, les deux sœurs se penchaient sur mon épaule. Je sentais leur cœur battre et leur haleine voltiger dans mes cheveux. Ce sont, en vérité, les plus mauvais dessins que j'ai faits de ma vie. N'importe, on les trouvait admirables. Quand nous étions au salon, nous nous reposions tous les trois dans l'embrasure d'une croisée, et le rideau qui retombait sur nous à longs plis nous faisait comme une espèce de chambre dans la chambre, et nous étions là aussi libres que dans un cabinet. Musidora était à ma gauche, Clary à droite, et je tenais une de leurs mains dans chacune des miennes. Nous caquetions comme des pies. C'était un ramage à ne pas s'entendre. Les petites parlaient à la fois, et il m'arrivait souvent de donner à Clary la réponse de Musidora, et ainsi de suite. Et quelquefois, cela donnait lieu à des propos si charmants, à des quiproquos si comiques, que nous nous en tenions les côtes de rire. Pendant ce temps-là, la mère faisait du filet, lisait quelque vieux journal, ou sommeillait à demi dans sa bergère. Certainement ma position était digne d'envie et je n'aurais pu en rêver une plus désirable. Cependant, je n'étais heureux qu'à moitié. Si en jouant j'embrassais Clary, je sentais qu'il me manquait quelque chose et que ce n'était pas un baiser complet. Alors, je courais embrasser Musidora. Et le même effet se répétait en sens inverse. Avec l'une, je regrettais l'autre. Et ma volupté n'eût été entière que si j'eusse pu les embrasser toutes deux à la fois. Ce n'était pas une chose fort aisée. Une chose singulière, c'est que les deux charmantes misses n'étaient pas jalouses l'une de l'autre. Il est vrai que j'avais soin de répartir mes caresses et mes attentions avec la plus exacte impartialité. Malgré cela, ma situation était des plus difficiles et j'étais dans des transes perpétuelles. Je ne sais pas si l'effet qu'elles produisaient sur moi, elles se le produisaient réciproquement sur elles. Mais je ne puis attribuer à un autre motif la bonne intelligence qui régnait entre nous. Elles se sentaient dépareillées quand elles n'étaient pas ensemble, et comprenaient intérieurement que l'une n'était que la moitié de l'autre, et qu'il fallait qu'elles fussent réunies pour former un tout. À la bienheureuse nuit où elles furent conçues, il est probable que l'ange qui n'avait apporté qu'une âme, ne comptant pas sur deux jumelles, n'avait pas eu le temps de remonter en chercher une seconde. et l'avait divisé entre les deux petites créatures. Cette folle idée s'était tellement enracinée dans mon esprit que je les avais débaptisées et leur avais donné un seul nom pour toutes les deux. Musidora et Clary étaient en proie au même supplice que moi. Un jour, je ne sais si cela se fit de concert ou par un mouvement naturel, elles arrivèrent en courant à ma rencontre et se jetèrent toutes essoufflées contre ma poitrine. Je penchai la tête pour les embrasser comme c'était ma coutume. Elles me prévinrent et me baisèrent à la fois chacune sur une joue. Leurs beaux yeux brillaient d'un éclat extraordinaire. Leur petit cœur battait. Peut-être était-ce parce qu'elles avaient couru. Mais dans l'instant, je ne l'attribuais pas à cela. Elles avaient un air ému et satisfait qu'elles n'avaient pas lorsque je les embrassais séparément. C'est que la sensation était simultanée et que ces deux baisers n'étaient effectivement qu'un seul et même baiser. Non pas le baiser de Musidora et de Clary, mais celui de la femme complète qu'elles formaient à elles deux. Qui était l'une et l'autre, et n'était ni l'une ni l'autre. Le baiser de la sylphide idéale, à qui j'avais donné le nom d'Adorata. Cela était charmant, et je fus heureux au moins 3 secondes. Mais cette idée me vint qu'avec cette manière, j'étais passif et non actif, et qu'il était de ma dignité d'homme de ne pas laisser intervertir les rôles. Je réunis dans une seule de mes mains les doigts effilés de Musidora et de Clary. Et je les attirai en faisceau jusque sur mes lèvres. Ainsi je leur rendis leur caresse comme elles me l'avaient donnée, et ma bouche toucha la main de Clary en même temps que celle de sa sœur. Elles entrèrent tout de suite dans mon idée, toute subtile qu'elle était, et me jetèrent pour récompense le regard le plus enchanteur que jamais deux femmes en présence aient laissé tomber sur un même homme. Vous rirez, vous direz que j'étais fou. Et que c'est un très petit malheur que d'être aimé à la fois de deux charmantes personnes. Mais la vérité est que je n'avais jamais été aussi tourmenté de ma vie. J'aurais possédé Clary, j'aurais possédé Musidora, je n'en aurais certes pas été plus heureux. Ce que je voulais était impossible, c'était de les avoir toutes deux en même temps, à la même place. Vous voyez bien que j'avais totalement perdu la tête. En ce temps-là, il me tomba entre les mains un certain roman chinois de feu, le chinois M. Abel Rémusat. Il était intitulé « Yu Kiaoli » ou « Les deux cousines ». Je ne pris pas d'abord un grand plaisir à la description des tasses de thé et aux improvisations sur la fleur de pêcher et les branches de saule qui remplissent les premiers volumes. Mais quand je vins à l'endroit où le bachelier en lettres Si Youp, déjà amoureux de la première cousine, devint de rechef amoureux de l'autre cousine, la belle Yomouli. Je commençai à prendre intérêt au livre, à cause de ce double amour qui me rappelait ma position. Tant il est vrai que nous sommes profondément égoïstes et que nous n'approuvons que ceux qui parlent de nous. J'attendais le dénouement avec anxiété, et quand je vis que le bachelier Si Youp épousait les deux cousines, je vous assure que je me suis surprise à désirer d'être chinois, rien que pour pouvoir être bigame, et cela sans être pendu. Il est vrai que je n'aurais pas promené, comme l'honnête chinois, mon amour alternatif du pavillon de l'Est au pavillon de l'Ouest. N'importe, je me pris dès ce jour d'une singulière admiration pour Yu Kiaoli, et je le prenais partout comme le plus beau roman du monde. Excédé d'une situation aussi fausse, je résolus, faute de mieux, de demander une des deux sœurs en mariage. Musidora ou Clary? Clary ou Musidora? Je laissai aller quelques phrases sur le besoin de se fixer, sur le bonheur d'être en ménage, si bien que la mère fit retirer les deux petites et la conversation s'engagea.
« Madame, vous allez me trouver bien étrange, lui dis-je. Mon intention formelle est certainement d'épouser une de vos demoiselles, si vous me l'accordez. Mais elles me paraissent si aimables toutes deux que je ne sais laquelle prendre. »
Elle sourit et me dit.
« Je suis comme vous, je ne sais laquelle j'aime le mieux, mais avec le temps, vous vous déciderez. Mes filles sont jeunes, elles peuvent attendre. »
Nous en restâmes là. 3-4 mois se passèrent. J'étais aussi incertain que le premier jour. C'était affreux. Je ne pouvais rester plus longtemps dans la maison sans prendre un parti. Je ne pouvais le prendre. Je prétextais un voyage. Les deux petites pleurèrent beaucoup. La mère me dit adieu avec un air de pitié bienveillante et douce que je n'oublierai jamais. Elle avait compris combien était grand mon malheur. Les deux sœurs m'accompagnèrent jusqu'au bas de l'escalier. Et là, sentant bien que nous ne devions plus nous revoir, me donnèrent chacune une boucle de leurs cheveux. Je n'ai pleuré dans ma vie que cette fois-là, et puis une autre. Mais c'est une histoire que je ne vous conterai pas. Je fis tresser les deux mèches ensemble et je les portai sentimentalement sur mon cœur pendant mes 6 mois d'absence. À mon retour, j'appris que les deux sœurs étaient mariées. L'une à un gros major qui était toujours ivre et qui la battait, l'autre à un juge, ou quelque chose comme cela, qui avait les yeux et le nez rouges. Toutes deux étaient enceintes. On peut bien croire que je n'épargnais pas les malédictions à ces deux brutaux, qui n'avaient pas craint de dédoubler cette individualité charmante, faite de deux corps et d'une seule âme, et que je me répandis en invectives furibondes sur le prosaïsme du siècle et l'immoralité du mariage. La tresse passa de mon cœur dans mon tiroir. Un mois après, je pris une maîtresse. L'autre jour, Mariette a trouvé ce gage de tendresse en mettant de l'ordre dans mes papiers. Et, voyant ces deux boucles, l'une blonde et l'autre brune, elle m'a cru coupable d'une double infidélité. Et peu s'en est fallu qu'elle ne m'arrachât les yeux. Cela aurait été dommage, car c'est à peu près tout ce que j'ai de beau dans la figure, et les dames prétendent que j'ai un joli regard. J'ai eu toutes les peines du monde à la convaincre de mon innocence. Et je crois qu'elle me garde encore rancune. Ceci est l'histoire de mes amours de l'hiver dernier et la raison pourquoi je suis admirateur des romans chinois. Fin de Laquelle des deux de Théophile Gautier. Enregistré et lu par Zeku à Tournai en Belgique durant février 2015. L'âme de la maison de contes humoristiques. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zeku à Tournai en Belgique durant avril 2015. Contes humoristiques de Théophile Gautier. L'âme de la maison. Conte. Partie 1. Lorsque je suis seul et que je n'ai rien à faire, ce qui m'arrive souvent, je me jette dans un fauteuil, je croise les bras, puis les yeux au plafond, je passe ma vie en revue. Ma mémoire, magicienne, prend la palette, trace, à grands traits et à larges touches, une suite de tableaux diaprés des couleurs les plus étincelantes et les plus diverses. Car, bien que mon existence extérieure ait été presque nulle, au-dedans, j'ai beaucoup vécu. Ce qui me plaît surtout dans ce panorama, ce sont les derniers plans, la bande qui bleuit et touche à l'horizon, les lointains ébauchés dans la vapeur, vagues comme le souvenir d'un rêve, doux à l'œil et au cœur. Mon enfance est là, joueuse et candide, belle de la beauté d'une matinée d'avril. Vierge de corps et d'âme, souriant à la vie comme à une bonne chose. Hélas, mon regard s'arrête complaisamment à cette représentation de mon moi d'alors, qui n'est plus mon moi d'aujourd'hui. J'éprouve, en me voyant, une espèce d'hésitation, comme lorsqu'on rencontre par hasard un ami ou un parent, après une si longue absence qu'on a eu le temps d'oublier ses traits. J'ai quelquefois toutes les peines du monde à me reconnaître. À dire vrai, je ne me ressemble guère. Depuis, tant de choses ont passé par ma pauvre tête. Ma physionomie physique et morale est totalement changée. Au souffle glacial du prosaïsme, j'ai perdu une à une toutes mes illusions. Elles sont tombées de mon âme, comme les fleurs de l'amandier par une bise froide. Et les hommes ont marché dessus avec leurs pieds de fange. Ma pensée adolescente, touché et pollué par leurs mains grossières, n'a rien conservé de sa fraîcheur et de sa pureté primitive. Sa fleur, son velouté, son éclat, tout a disparu, comme l'aile de papillon qui laisse aux doigts une poussière d'or, d'azur et de carmin. Elle a laissé son principe odorant sur l'index et le pouce de ceux qui voulaient la saisir dans son vol de sylphide. Avec la jeunesse de ma pensée, celle de mon corps s'en est allée aussi. Mes joues, rebondies et rosées comme des pommes, se sont profondément creusées. Ma bouche, qui riait toujours et que l'on eût prise pour un coquelicot noyé dans une jatte de lait, est devenue horizontale et pâle. Mon profil se dessine en méplats fortement accusés. Une ride précoce commence à se dessiner sur mon front. Mes yeux n'ont plus cette humidité limpide qui les faisait briller comme deux sources où le soleil donne. Les veilles, les chagrins les ont fatigués et rougis. Leur orbite s'est cavée, de sorte qu'on peut déjà comprendre les os sous la chair, c'est-à-dire le cadavre sous l'homme, le néant sous la vie. Oh, s'il m'était donné de revenir sur moi-même, mais ce qui est fait est fait. N'y pensons plus. Parmi tous ces tableaux, un surtout se détache nettement, de même qu'au bout d'une plaine uniforme, un bouquet de bois, une flèche d'église dorée par le couchant. C'est le prieuré de mon oncle le chanoine. Je le vois encore d'ici, au revers de la colline, entre les grands châtaigniers, à deux pas de la chapelle de Saint-Caribert. Il me semble être en ce moment dans la cuisine. Je reconnais le plafond rayé de solives de chêne noircies par la fumée, la lourde table aux pieds massifs, la fenêtre étroite taillée à vitraux qui ne laisse passer qu'un demi-jour vague et mystérieux digne d'un intérieur de Rembrandt, les tablettes disposées par étages qui soutiennent une grande quantité d'ustensiles de cuivre jaune et rouge, de forme bizarre, les unes fondues dans l'ombre, les autres se détachant du fond. Une paillette saillante sur la partie lumineuse et des reflets sur le bord. Rien n'est changé. Les assiettes, les plats d'étain, clairs comme de l'argent, les pots de faïence à fleurs, les bouteilles à large centre, les fioles grêles à goulot allongé, ainsi qu'on les trouve dans les tableaux de vieux maîtres flamands. Tout est à la même place. Le petit détail est minutieusement conservé. À l'angle du mur, irisé par un rayon de soleil, j'aperçois la toile de l'araignée à qui, tout enfant, je donnais des mouches après leur avoir coupé les ailes, et le profil grotesque de Jacobus Pragmater sur une porte condamnée où le plâtre est plus blanc. Le feu brille dans la cheminée. La fumée monte en tourbillonnant le long de la plaque arborée aux armes de France. Des gerbes d'étincelles s'échappent des tisons qui craquent. La fine poularde, préparée pour le dîner de mon oncle, tourne lentement devant la flamme. J'entends le tic-tac du tournebroche, le pétillement des charbons et le grésillement de la graisse qui tombe goutte à goutte dans la lèche frite brûlante. Berthe, son tablier blanc retroussé sur la hanche, l'arrose de temps en temps, avec une cuillère de bois, et veille sur elle, comme une mère sur sa fille. Et la porte du jardin s'ouvre. Jacobus Pragmater, le maître d'école, entre à pas mesurés, tenant d'une main un bâton de houx et de l'autre main la petite Maria qui rit et chante. Pauvre enfant, en écrivant ton nom, une larme tremble au bout de mes cils humides. Mon cœur se serre. Dieu te mette parmi ses anges, douce et bonne créature, tu le mérites, car tu m'aimais bien. Et depuis que tu ne m'accompagnes plus dans la vie, il me semble qu'il n'y a rien autour de moi. L'herbe doit croître bien haute sur ta fosse, car tu es morte là-bas, et personne n'y est allé, pas même moi, que tu préférais à tout autre, et que tu appelais ton petit mari. Pardonne, ô Maria, je n'ai pu jusqu'à présent faire le voyage, mais j'irai, je chercherai la place. Pour la découvrir, j'interrogerai les inscriptions de toutes les croix, et quand je l'aurai trouvée, je me mettrai à genoux. Je prierai longtemps, bien longtemps, afin que ton ombre soit consolée. Je jetterai sur la pierre, verte de mousse, tant de guirlandes blanches et de fleurs d'oranger, que ta fosse semblera une corbeille de mariage. Hélas, la vie est faite ainsi. C'est un chemin âpre et montueux. Avant que d'être au but, beaucoup se lassent. Les pieds endoloris et sanglants, beaucoup s'asseyent sur le bord d'un fossé et ferment leurs yeux pour ne plus les rouvrir. À mesure que l'on marche, le cortège diminue. L'on était parti 20, on arrive seul à cette dernière hôtellerie de l'homme, le cercueil. Car il n'est pas donné à tous de mourir jeune, et tu n'es pas, ô Maria, la seule perte que j'ai à déplorer. Jacobus Pragmater est mort, Berthe est morte, il repose oublié au fond d'un cimetière de campagne. Tom, le chat favori de Berthe, n'a pas survécu à sa maîtresse. Il est mort de douleur sur la chaise vide où elle s'asseyait pour filer. Et personne ne l'a enterré. Car qui s'intéressait au pauvre Tom, excepté Jacobus Pragmater et la vieille Berthe? Moi seul, je suis resté pour me souvenir d'eux et écrire leur histoire, afin que la mémoire ne s'en perde pas. Partie 2. C'était un soir d'hiver. Le vent, en s'engouffrant dans la cheminée, en faisait sortir des lamentations et des gémissements étranges. On eût dit ces soupirs vagues et inarticulés qu'envoie l'orgue aux échos de la cathédrale. Les gouttes de pluie cinglaient les vitres avec un son clair et argenté. Moi et Maria, nous étions seuls. Assis tous les deux sur la même chaise, paresseusement appuyés l'un sur l'autre, mon bras autour d'elle, le sien autour de moi, nos joues se touchant presque. Les boucles de nos cheveux mêlés ensemble si tranquilles, si reposés, si détachés du monde, si oublieux de toute chose, que nous entendions notre chair vivre. Nos artères battre et nos nerfs tressaillir. Notre respiration venait se briser à temps égaux sur nos lèvres, comme la vague sur le sable, avec un bruit doux et monotone. Nos cœurs palpitaient à l'unisson, nos paupières s'élevaient et s'abaissaient simultanément. Tout dans nos âmes et dans nos corps était en harmonie et vivait de concert. Ou plutôt, nous n'avions qu'une âme à deux, tant la sympathie avait fondu nos existences dans une seule et même individualité. Un fluide magnétique entrelaçait autour de nous, comme une résille de soie aux mille couleurs, ces filaments magiques. Il en partait un de chaque atome de mon être, qui allait se nouer à un atome de Maria. Nous étions si puissamment, si intimement liés, que je suis sûr que la balle qui aurait frappé l'un aurait tué l'autre sans le toucher. Oh, qui pourrait, au prix de ce qui me reste à vivre, me rendre une de ces minutes si courtes et si longues, dont chaque seconde renferme tout un roman intérieur, tout un drame complet, toute une existence entière, non pas d'homme, mais d'ange. Âge fortuné des premières émotions, où la vie nous apparaît comme à travers un prisme fleuri, pailleté, chatoyante, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, où le passé et l'avenir sont rattachés à un présent sans chagrin, par de douces souvenances et un espoir qui n'a pas été trompé. Âge de poésie et d'amour, où l'on n'est pas encore méchant, parce qu'on n'a pas été malheureux. Pourquoi faut-il que tu passes si vite, et que tous nos regrets ne puissent te faire revenir une fois passé? Sans doute, il faut que cela soit ainsi, car qui voudrait mourir et faire place aux autres? S'il nous était donné de ne pas perdre cette virginité d'âme et les riantes illusions qui l'accompagnent. L'enfant est un ange descendu de là-haut, à qui Dieu a coupé les ailes en le posant sur le monde. Mais qui se souvient encore de sa première patrie? Il s'avance d'un pas timide dans les chemins des hommes, et tout seul, son innocence se déflore à leur contact. Et bientôt il a tout fait oublier qu'il vient du ciel et qu'il doit y retourner. Abîmés dans la contemplation l'un et l'autre, nous ne pensions pas à notre propre vie. Spectateurs d'une existence en dehors de nous, nous avions oublié la nôtre. Cependant, cette espèce d'extase ne nous empêchait pas de saisir jusqu'aux moindres bruits intérieurs, jusqu'aux moindres jeux de lumière dans les recoins obscurs de la cuisine, et les interstices des poutres. Les ombres, découpées en atomes baroques, se dessinaient nettement au fond de notre prunelle. Les reflets étincelants des chaudrons, les diamants phosphoriques allumés aux reflets des cafetières argentées, jetaient des rayons prismatiques dans chacun de nos cils. Le son monotone du coucou juché dans son armoire de chêne, le craquement des vitrages de plomb, les jérémiades du vent, le caquetage des fagots flambant dans l'âtre. Toutes les harmonies domestiques parvenaient distinctement à notre oreille, chacune avec sa signification particulière. Jamais nous n'avions aussi bien compris le bonheur de la maison et les voluptés indéfinissables du foyer. Nous étions si heureux d'être là, coisés chauds, dans une chambre bien close, devant un feu clair, seuls et libres de toute gêne, tandis qu'il pleuvait, ventait et grêlait au dehors, jouissant d'une tiède atmosphère d'été, tandis que l'hiver, faisant craqueter ses doigts blancs de givre, mugissait à deux pas, séparé de nous par une vitre et une planche. À chaque sifflement aigu de la bise, à chaque redoublement de pluie, nous nous serrions l'un contre l'autre, pour être plus forts, et nos lèvres, lentement déjointes, laissaient aller un « Oh, mon Dieu !» profond et sourd. « Oh, mon Dieu ! Qu'ils sont à plaindre, les pauvres gens qui sont en route !» Et puis nous nous taisions, pour écouter les abois du chien de la ferme, le galop heurté d'un cheval sur le grand chemin, le criaillement de la girouette enrouée, et, par-dessus tout, le cri du grillon tapis entre les briques de l'âtre, vernissés et bistrés par une fumée séculaire. « J'aimerais bien être grillon, » dit la petite Maria, en mettant ses mains roses et potelées dans les miennes. « Surtout en hiver, je choisirais une crevasse aussi près du feu que possible, et j'y passerais le temps à me chauffer les pattes. Je tapisserais bien ma cellule avec de la barbe de chardon et de pissenlit. Je ramasserais les duvets qui flottent en l'air. Je m'en ferais un matelas et un oreiller bien souple, bien moelleux, et je me coucherai dessus. Du matin jusqu'au soir, je chanterai ma petite chanson de grillon, et je ferai cri-cri, et puis je ne travaillerai pas, je n'irai pas à l'école. Oh, quel bonheur! Mais je ne voudrais pas être noir comme ils sont. N'est-ce pas, Théophile, que c'est vilain d'être noir ?» Et en prononçant ces mots, elle jeta une œillade coquette sur la main que je tenais. « Tu es une folle !» lui dis-je en l'embrassant. « Toi qui ne peux rester un seul instant tranquille, tu t'ennuierais bien vite de cette vie égale et dormante. Ce pauvre reclus de Grillon ne doit guère s'amuser dans son ermitage. Il ne voit jamais le soleil, le beau soleil aux cheveux d'or, ni le ciel de saphir avec ses beaux nuages de toutes couleurs. Il n'a pour perspective que la plaque noircie de l'âtre, les chenets et les tisons. Il n'entend d'autre musique que la bise et le tic-tac du tournebroche. Quel ennui ! Si je voulais être quelque chose, j'aimerais bien mieux être demoiselle. Parle-moi de cela, à la bonne heure, c'est si joli. On a un corset d'émeraude, un diamant pour œil, de grandes ailes de gaze d'argent, de petites pattes frêles veloutées. Oh, si j'étais demoiselle ! Comme je volerais par la campagne, à droite, à gauche, selon ma fantaisie, au long des haies d'aubépines, des mûriers sauvages et des églantiers épanouis, effleurant du bout de l'aile un bouton d'or, une pâquerette ployée au vent, j'irai, je courrai du brin d'herbe au boulot, du boulot au chêne, tantôt dans la nue, tantôt rasant le sol, égratignant les eaux transparentes de la rivière, dérangeant dans les feuilles de nénuphar les criocères écarlates, effrayant de mon ombre les petits goujons qui s'agitent frétillards et peureux. Au lieu d'un trou dans la cheminée, j'aurai pour logis la coupe d'albâtre d'un lys, ou la campanule d'azur de quelques volubilis tapissée à l'intérieur de perles de rosée. J'y vivrai de parfums et de soleil, loin des hommes, loin des villes, dans une paix profonde, ne m'inquiétant de rien, que de jouer autour des roseaux panachés de l'étang, et de me mêler en bourdonnant aux quadrilles et aux valses des moucherons. J'allais commencer une autre phrase quand Maria m'interrompit. « Ne te semble-t-il pas, dit-elle, que le cri du grillon a tout à fait changé de nature ? J'ai cru plusieurs fois, pendant que tu parlais, saisir parmi ses notes des mots clairement articulés.
J'ai d'abord pensé que c'était l'écho de ta voix, mais je suis à présent bien certaine du contraire. Écoute, le voici qui recommence. »
En effet, une voix grêle et métallique partait de la loge du grillon.
« Enfant, si tu crois que je m'ennuie, tu te trompes étrangement. J'ai 1000 sujets de distraction que tu ne connais pas. Mes heures, qui te paraissent être si longues, coulent comme des minutes. La bouloire me chante à demi-voix sa chanson. La sève qui sort en écumant par l'extrémité des bûches me siffle des airs de chasse. Les braises qui craquent, les étincelles qui pétillent me jouent des duos dont la mélodie échappe à vos oreilles terrestres. Le vent qui s'engouffre dans la cheminée me fredonne des ballades fantastiques et me raconte de mystérieuses histoires. Puis les paillettes de feu, dirigées en l'air par des salamandres de mes amis, forment, pour me récréer, des gerbes éblouissantes, des globes lumineux rouges et jaunes, des pluies d'argent qui retombent en réseaux bleuâtres, des flammes de 1000 nuances, vêtues de robes de pourpre, dansent le fandago sur les tisons ardents, et moi, penché au bord de mon palais, je me chauffe jusqu'à faire rougir mon corset noir, et je savoure à mon aise toutes les voluptés du nonchaloir et le bien-être du chez-soi. Quand vient le soir, je vous écoute causer et lire. L'hiver dernier, Berthe vous répétait, tout en filant, de beaux contes de fées. L'oiseau bleu, Riquet à la houppe, Maguelone et Pierre de Provence. J'y prenais un singulier plaisir, et je les sais presque tous par cœur. J'espère que, cette année, elle en aura appris d'autres, et que nous passerons encore de joyeuses soirées. Eh bien, cela ne vaut-il pas mieux que d'être demoiselle et de vagabonder par les champs? Passe pour l'été, mais quand arrive l'automne, que les feuilles couleur de safran tourbillonnent dans les bois, qu'il commence à geler blanc, quand la brume, froide et piquante, raye le ciel gris de ses innombrables filaments, que le givre enveloppe les branches dépouillées d'une peluche scintillante. Quand on n'a plus de fleurs pour se gîter le soir, que devenir? Où réchauffer ses membres engourdis? Où sécher son aile trempée de pluie? Le soleil n'est plus assez fort pour percer les brouillards. On ne peut plus voler, et d'ailleurs, quand on le pourrait, où irait-on? Adieu les haies d'aubépine, les boutons d'or et les pâquerettes. La neige a tout couvert. Les eaux qu'on égratignait en passant ne forment plus qu'un cristal solide. Les roses sont mortes, les parfums évaporés. Les oiseaux gourmands vous prennent dans leur bec et vous portent dans leur nid pour se repaître de vos chairs. Affaiblis par le jeûne et le froid, comment fuir? Les petits polissons du village vous attrapent sous leurs mouchoirs et vous piquent à leur chapeau avec une longue épingle. Là, vivante cocarde, vous souffrez 1000 morts avant de mourir. Vous avez beau agiter vos pattes suppliantes, on n'y fait pas attention, car les enfants sont, comme les vieillards, cruels. Les uns, parce qu'ils ne sentent pas encore, les autres, parce qu'ils ne sentent plus.
Partie 3. Comme vous n'avez probablement pas vu la caricature de Jacobus Pragmater, dessiné au charbon sur la porte de la cuisine de mon oncle le chanoine, et qu'il est peu probable que vous alliez à cette ville de France pour la voir, vous vous contenterez d'un portrait à la plume. Jacobus Pragmater, qui joue en cette histoire le rôle de la fatalité antique, avait toujours eu 60 ans. Il était né avec des rides. La nature l'avait jeté en moule tout exprès pour faire un bedeau ou un maître d'école de village. En nourrice, il était déjà pédant. Étant jeune, il avait écrit en petite bâtarde l'Ave et le Credo dans un rond de parchemin de la grandeur d'un petit écu. Il l'avait présenté à monsieur le marquis de cette ville de France, dont il était le filleul. Celui-ci, après l'avoir considéré attentivement, s'était écrié à plusieurs reprises « Voilà un garçon qui n'est pas manchot !» Il se plaisait à nous raconter cette anecdote où, comme il rappelait, cet apophtègme, le dimanche, quand il avait bu 2 doigts de vin et qu'il était en belle humeur, Il ajoutait, par manière de réflexion, que M. le marquis de cette ville de France était bien le gentilhomme de France le plus spirituel et le mieux appris qu'il eût jamais connu. Quoique aux importantes fonctions de maître d'école, il ajouta celles, non moins importantes, de bedeau, de chantre, de sonneur. Il n'en était pas plus fier. À ses heures de relâche, il soignait le jardin de mon oncle, et l'hiver, il lisait une page ou deux de Voltaire ou de Rousseau en cachette, car, étant plus d'à moitié prêtre, comme il le disait, une pareille lecture n'eût pas été convenable en public. C'était un esprit sec, exact cependant, mais sans rien d'onctueux. Il ne comprenait rien à la poésie, il n'avait jamais été amoureux, et n'avait pas pleuré une seule fois dans sa vie. Il n'avait aucune des charmantes superstitions de campagne, et il grondait toujours Berthe quand elle nous racontait une histoire de fées ou de revenants. Je crois qu'au fond, il pensait que la religion n'était bonne que pour le peuple. En un mot, c'était la prose incarnée, la prose dans toute son étroitesse, la prose de Barème et de Lomont. Son extérieur répondait parfaitement à son intérieur. Il avait quelque chose de pauvre, d'étriqué, d'incomplet, qui faisait peine à voir et donnait envie de rire en même temps. Sa tête, bizarrement bossuée, luisait à travers quelques cheveux gris. Ses sourcils blancs se hérissaient en buisson sur deux petits yeux verts de mer, clignotants et enfouis dans une patte d'oie de rides horizontales. Son nez, long comme une flûte d'alambic, tout diapré de verrues, tout barbouillé de tabac, se penchait amoureusement sur son menton. Aussi, lorsqu'on jouait au petit jeu et qu'il fallait embrasser quelqu'un par pénitence, c'était toujours lui que les jeunes filles choisissaient en présence de leur mère ou de leur amant. Ces avantages naturels étaient merveilleusement rehaussés par le costume de leur propriétaire. Il portait d'habitude un habit noir râpé, avec des boutons larges comme des tabatières, les bas et la culotte de couleur incertaine, des souliers à boucles et un chapeau à trois cornes que mon oncle avait porté 2 ans avant de lui en faire cadeau. Oh, digne Jacobus Pragmater, qui aurait pu s'empêcher de rire en te voyant arriver par la porte du jardin, le nez au vent, les manches pendantes de ton grand habit flottant au long de ton corps, comme si elles eussent été un rouleau de papier sortant à demi de ta poche, tu aurais déridé le front du spleen en personne. Il nous embrassa selon sa coutume, piqua les joues potelées de Maria à la brosse de sa barbe, me donna un petit coup sur l'épaule et tira de sa poche un cœur de pain d'épices enveloppé d'un papier chamarré d'or et de paillons qu'il partagea entre Maria et moi. Il nous demanda si nous avions été bien sages. La réponse, sans hésiter, fut affirmative, comme on peut le croire. Pour nous récompenser, il nous promit à chacun une image coloriée. Les galoches de Berthe sonnèrent dans le haut de l'escalier. Le service de mon oncle ne la retenait plus. Elle vint s'asseoir au coin du feu avec nous. Maria quitta aussitôt le genou où Pragmater la retenait presque malgré elle, car, en dépit de toutes ses caresses, elle ne le pouvait souffrir et courut se mettre sur les genoux de Berthe. Elle lui raconta ce que nous avions entendu et lui répéta même quelques couplets de la ballade qu'elle avait retenue. Berthe l'écouta gravement et avec bonté et dit, quand elle eut fini, qu'il n'y avait rien d'impossible à Dieu, que les grillons étaient le bonheur de la maison et qu'elle se croirait perdue si elle en tuait un, même par mégarde. Pragmater l'attensa vivement d'une croyance aussi absurde et lui dit que c'était pitié d'inculquer des superstitions de bonne femme à des enfants et que, s'il pouvait attraper celui de la cheminée, il le tuerait pour nous montrer que la vie ou la mort d'une méchante bête était parfaitement insignifiante. J'aimais assez Pragmater parce qu'il me donnait toujours quelque chose. Mais en ce moment, il me parut d'une férocité de cannibale et je l'aurais volontiers dévisagé. Même à présent que l'habitude de la vie et le train des choses m'ont usé l'âme et durci le cœur, je me reprocherais comme un crime le meurtre d'une mouche, trouvant, comme le bon Toby, que le monde est assez large pour deux. Pendant cette conversation, le grillon jetait imperturbablement ses notes aiguës et vibrantes à travers la voix sourde et cassée de Pragmater, la couvrant quelquefois et l'empêchant d'être entendue. Pragmater, impatienté, donna un coup de pied si violent du côté d'où le chant paraissait venir que plusieurs flocons de suie se détachèrent et avec eux la cellule du grillon, qui se mit à courir sur la cendre aussi vite que possible pour regagner un autre trou. Par malheur pour lui, le rancunier maître d'école l'aperçut et, malgré nos cris, le saisit par une patte au moment où il entrait dans l'interstice de deux briques. Le grillon, se voyant perdu, abandonna bravement sa patte, qui resta entre les doigts de Pragmater comme un trophée, et s'enfonça profondément dans le trou. Pragmater jeta froidement au feu la patte toute frémissante encore. Berthe leva les yeux au ciel avec inquiétude, en joignant les mains. Maria se mit à pleurer. Moi, je lançai à Pragmater le meilleur coup de poing que j'eusse donné de ma vie. Il n'y prit seulement pas garde. Cependant, la figure triste et sérieuse de Berthe lui donna un moment d'inquiétude sur ce qu'il avait fait. Il eut une lueur de doute, mais le voltairianisme reprit bientôt le dessus, et un « bah » fortement accentué résuma son plaidoyer intérieur. Il resta encore quelques minutes, mais, ne sachant trop quelle contenance faire, il prit le parti de se retirer. Nous nous en allâmes coucher, le cœur gros de pressentiments funestes. Partie 4. Plusieurs jours s'écoulèrent tristement, mais rien d'extraordinaire n'était venu réaliser les appréhensions de Berthe. Elle s'attendait à quelque catastrophe. Le mal fait à un grillon porte toujours malheur. « Vous verrez, disait-elle, Pragmater, qu'il nous arrivera quelque chose à quoi nous ne nous attendons pas. » Dans le courant du mois, mon oncle reçut une lettre venant de loin, toute constellée de timbres, toute noire à force d'avoir roulé. Cette lettre lui annonçait que la maison du banquier était quelque chose sur laquelle son argent était placé, venait de faire banqueroute, et était dans l'impossibilité de solder ses créanciers. Mon oncle était ruiné. Il ne lui restait plus rien que sa modique prébende. Pragmater, à demi ébranlé dans sa conviction, se faisait, à part lui, de cruels reproches. Berthe pleurait, tout en filant avec une activité triple pour aider en quelque chose. Le grillon, malade ou irrité, n'avait pas fait entendre sa voix depuis la soirée fatale. Le tournebroche avait inutilement essayé de lier conversation avec lui. Il restait muet au fond de son trou. La cuisine se ressentit bientôt de ce revers de fortune. Elle fut réduite à une simplicité évangélique. Adieu les poulardes blondes, si appétissantes dans leur lit de cresson, la fine perdrix au corset de lard, la truite à la robe de nacre semée d'étoiles rouges. Adieu les mille gourmandises dont les religieuses et les gouvernantes des prêtres connaissent seules le secret. Le bouilli filandreux, avec sa couronne de persil, les choux et les légumes du jardin, quelques quartiers aigus de fromage composaient le modeste dîner de mon oncle. Le cœur saignait à Berthe quand il lui fallait servir ses plats simples et grossiers. Elle les posait dédaigneusement sur le bord de la table et en détournait les yeux. Elle se cachait presque pour les apprêter, comme un artiste de haut talent qui fait une enseigne pour dîner. La cuisine, jadis si gaie et si vivante, avait un air de tristesse et de mélancolie. Le brave Tom lui-même semblait comprendre le malheur qui était arrivé. Il restait des journées entières assis sur son derrière, sans se permettre la moindre gambade. Le coucou retenait sa voix d'argent et sonnait bien bas. Les casseroles, inoccupées, avaient l'air de s'ennuyer à périr. Le grill étendait ses bras noirs comme un grand désœuvré. Les cafetières ne venaient plus faire la causette auprès du feu. La flamme était toute pâle et un maigre filet de fumée rampait tristement au long de la plaque. Mon oncle, malgré toute sa philosophie, ne put venir à bout de vaincre son chagrin. Ce beau vieillard, si gras, si vermeil, si épanoui, avec ses trois mentons et son mollet encore ferme, ce gai convive qui chantait après boire la petite chanson, vous ne l'auriez certainement pas reconnu. Il avait plus vieilli dans un mois que dans 30 ans. Il n'avait plus de goût à rien. Les livres qui lui faisaient le plus de plaisir dormaient oubliés sur les rayons de la bibliothèque. Le magnifique exemplaire, Elzévir, des confessions de saint Augustin, exemplaire auquel il tenait tant et qu'il montrait avec orgueil au curé des environs, n'était pas remué plus souvent que les autres. Une araignée avait eu le temps de tisser sa toile sur son dos. Il restait des journées entières dans son fauteuil de tapisserie à regarder passer les nuages par les losanges de sa fenêtre, plongé dans une mer de douloureuses réflexions. Il songeait avec amertume qu'il ne pourrait plus, les jours de Pâques et de Noël, réunir ses vieux camarades d'école qui avaient mangé avec lui la maigre soupe du séminaire, et se réjouir d'être encore si vert et si gaillard après tant d'anniversaires célébrés ensemble. Il fallait devenir ménager de ces bonnes bouteilles de vin vieux, toutes blanches de poussière, qu'il tenait sous le sable, au profond de sa cave, et qu'il réservait pour les grandes occasions. Celle-là bu, il n'y avait plus d'argent pour en acheter d'autres. Ce qui le chagrinait surtout, c'était de ne pouvoir continuer ses aumônes et de mettre ses pauvres dehors avec un « Dieu vous garde ». Ce n'était qu'à de rares intervalles qu'il descendait au jardin. Il ne prenait plus aucun intérêt aux plantations de pragmateurs. Elle en aurait marché sur les tournesols sans lui faire dire « Ah ». Le printemps vint. Ses fleurs avaient beau pencher la tête pour lui dire bonjour, il ne leur rendait pas leur salut, et la gaieté de la saison semblait même augmenter sa mélancolie. Ses affaires ne s'arrangeant pas, il crut que sa présence serait nécessaire pour les vider entièrement. Un voyage à cette ville de France était pour lui une entreprise aussi terrible que la découverte de l'Amérique. Il le différa autant qu'il put, car il n'avait jamais quitté, depuis sa sortie du séminaire, son village, enfoui au milieu des bois comme un nid d'oiseau. Et il lui en coûtait beaucoup pour se séparer de son presbytère aux murailles blanches, au contrevent vert, où il avait si longtemps caché sa vie aux yeux méchants des hommes. En partant, il remit entre les mains de Berthe une petite bourse assez plate pour subvenir aux besoins de la maison pendant son absence et promit de revenir bientôt. Il n'y avait là rien que de fort naturel, sans doute. Pourtant, nous étions profondément émus. Et je ne sais pourquoi il me semblait que nous ne le reverrions plus et que c'était pour la dernière fois qu'il nous parlait. Aussi, Maria et moi, nous l'accompagnâmes jusqu'au pied de la colline, trottant de toutes nos forces de chaque côté de son cheval, pour être plus longtemps avec lui. « Assez, mes petits, nous dit-il, je ne veux pas que vous alliez plus loin. Berthe serait inquiète de vous. » Puis il nous hissa sur son étrier, nous appuya un baiser bien tendre sur les joues, et piqua des deux, nous le suivîmes de l'œil pendant quelques minutes. Étant parvenu au haut de l'éminence, il retourna la tête pour voir encore une fois, avant qu'il s'enfonçât tout à fait sous l'horizon, le clocher de l'église paroissiale et le toit d'ardoise de sa petite maison. Nous ayant aperçus à la même place, il nous fit un geste amical de la main, comme pour nous dire qu'il était content. Puis il continua sa route. Un angle du chemin l'eut bientôt dérobé à nos yeux. Alors, un frisson me prit, et les pleurs tombèrent de mes yeux. Il me parut qu'on venait de fermer sur lui le couvercle de la bière et d'y planter le dernier clou. « Oh, mon Dieu !» dit Maria avec un grand soupir. « Mon pauvre oncle, il était si bon !» Et elle tourna vers moi ses yeux purs nageant dans un fluide abondant et clair. Une pie, perchée sur un arbre, au bord de la route, déploya, à notre aspect, ses ailes bigarrées, s'envola en poussant des cris discordants, et s'alla reposer sur un autre arbre. « Je n'aime pas entendre les pies !» dit Maria, en se serrant contre moi, d'un air de doute et de crainte. « Bah » répliquai-je, « je vais lui jeter une pierre. Il faudra bien qu'elle se taise, la vilaine bête !» Je quittai le bras de Maria. Je ramassai un caillou et je le jetai à la pie. La pierre atteignit une branche au-dessus, dont elle écorcha l'écorce. L'oiseau sautilla et continua ses criailleries moqueuses et enrouées.
« Ah, c'est trop fort » m'écriai-je. « Tu me veux donc narguer ?»
Et une seconde pierre se dirigea en sifflant vers l'oiseau. Mais j'avais mal visé. Elle passa entre les premières feuilles et alla tomber de l'autre côté, dans un champ de luzerne.
« Laisse-la tranquille !»
dit la petite en posant sa main délicate sur mon épaule.
« Nous ne pouvons l'empêcher !»«
Soit !» répondis-je. Et nous continuâmes notre chemin. Le temps était gris terne, et quoiqu'on fût au printemps, il soufflait une bise assez piquante. Il y avait de la tristesse dans l'air comme au dernier jour d'automne. Maria était pâle, une légère auréole bleuâtre cernait ses yeux languissants. Elle avait l'air fatiguée, et s'appuyait plus fortement que d'habitude. J'étais fier de la soutenir, et quoique je fusse presque aussi las qu'elle, j'aurais marché encore 2 heures. Nous rentrâmes. Le prieuré n'avait plus le même aspect. Lui, naguère si gai, si vivant, il était silencieux et mort. L'âme de la maison était partie. Ce n'était plus que le cadavre. Pragmater, malgré son incrédulité, hochait soucieusement la tête. Berthe filait toujours. Et Tom, assis en face d'elle et agitant gravement sa queue, suivait les mouvements du roué. Je me serais mortellement ennuyé sans les promenades que nous allions faire, avec Maria, dans les grands bois, le long des champs, pour prendre des hannetons et des demoiselles. Partie 5. Le grillon ne chantait que rarement, et nous n'entendions plus rien à son chant. Nous en vîmes à croire que nous étions le jouet d'une illusion. Cependant, un soir, nous nous retrouvâmes seuls dans la cuisine, assis tous deux sur la même chaise, comme au jour où il nous avait parlé. Le feu flambait à peine. Le grillon éleva la voix, et nous pûmes parfaitement comprendre ce qu'il disait. Il se plaignait du froid. Pendant qu'il chantait, le feu s'était éteint presque tout à fait. Maria, touchée de la plainte du grillon, s'agenouilla et se mit à souffler avec sa bouche. Le soufflet était accroché à un clou. Hors de notre portée. C'était un plaisir de la voir, les joues gonflées, illuminées des reflets de la flamme. Tout le reste du corps était plongé dans l'ombre. Elle ressemblait à ces têtes de chérubin, cravatées d'une paire d'ailes, que l'on voit dans les tableaux d'église, dansant en rond autour des gloires mystiques de la Vierge et des Saints. Au bout de quelques minutes, moyennant une poignée de branches sèches que j'y jetais, l'âtre se trouva vivement éclairé, et nous pûmes voir, sur le bord de son trou, notre ami le grillon tendant ses pattes de devant au feu, comme deux petites mains, et ayant l'air de prendre un singulier plaisir à se chauffer. Ses yeux, gros comme une tête d'épingle, rayonnaient de satisfaction. Il chantait avec une vivacité surprenante, et sur un air très gai, des paroles sans suite que je n'entendais pas bien, et que je n'ai pas retenues. Quelques mois se passèrent, pas plus de nouvelles de mon oncle que s'il était mort. Un soir, Pragmater, ne sachant à quoi tuer le temps, monta dans la bibliothèque pour prendre un livre. Quand il ouvrit la porte, un violent courant d'air éteignit sa chandelle. Mais, comme il faisait clair de lune et qu'il connaissait les êtres de la maison, il ne jugea pas à propos de redescendre chercher de la lumière. Il alla du côté où il savait qu'était placée la bibliothèque. La porte se ferma violemment, comme si quelqu'un l'eût poussée. Un rayon de lune, plus vif et plus chatoyant, traversa les vitres jaunes de la fenêtre. À sa grande stupéfaction, Pragmater vit descendre sur ce filet de lumière, comme un acrobate sur une corde tendue, un fantôme d'une espèce singulière. C'était le fantôme de mon oncle, c'est-à-dire le fantôme de ses habits, car lui-même était absent. Son habit tombait à longs plis, et, au bout des manches vides, une paire de gants moulait ses mains. Une perruque tenait la place de sa tête, et à l'endroit des yeux scintillait, comme des verres phosphoriques, une énorme paire de besicles. Cet étrange personnage entra droit dans la chambre et se dirigea droit à la bibliothèque. On nous dit que les semelles de ses souliers étaient doublées de velours, car il glissait sur les dalles sans que le moindre craquement, le son le plus fugitif pût faire croire qu'il les eût effleurés. Après avoir touché et déplacé quelques volumes, il enleva de sa planche le Saint-Augustin, Elzévir, et le porta sur la table. Puis il s'assit dans le grand fauteuil à ramages, éleva un de ses gants à la hauteur où son menton aurait dû être, ouvrit le livre à un passage marqué par un signet de faveur bleue, comme quelqu'un que l'on aurait interrompu, et se prit à lire en tournant les feuillets avec vivacité. La lune se cacha. Pragmater crut qu'il ne pourrait point continuer, mais les verres de ses lunettes, semblables aux yeux des chats et des hiboux, étaient lumineux par eux-mêmes et reluisaient dans l'ombre comme des escarboucles. Il en partait des lueurs jaunes qui éclairaient les pages du livre, aussi bien qu'une bougie l'eût pu faire. L'activité qu'il mettait à sa lecture était telle qu'il tira de sa poche un mouchoir blanc qu'il passa à plusieurs reprises sur la place vide qui représentait son front, comme s'il eût sué à grosses gouttes. L'horloge sonna successivement, avec sa voix fêlée, 10 heures, 11 heures, minuit. Au dernier coup de minuit, le fantôme se leva, remit le précieux bouquin à sa place. Le ciel était gris, les nues, échevelées, couraient rapidement de l'est à l'ouest. La lune remontra sa face blanche par une déchirure. Un rayon parti de ses yeux bleus plongea dans la chambre. Le mystérieux lecteur monta dessus en s'appuyant sur sa canne et sortit de la même manière qu'il était entré. Abasourdi de tant de prodiges, mourant de peur, claquant des dents, ses genoux cagneux se heurtant en rendant un son sec comme une crécelle, le digne maître d'école ne put se tenir plus longtemps sur ses pieds. Un frisson de fièvre le prit aux cheveux, et il tomba tout de son long à la renverse. Berthe, ayant entendu la chute, accourut tout effrayée. Elle le trouva gisant sur le carreau, sans connaissance, sa main étreignant la chandelle éteinte. Pragmater, malgré ses idées voltairiennes, eut beaucoup de peine à s'expliquer la vision étrange qu'il venait d'avoir. Sa physionomie en était toute troublée. Cependant, le doute ne lui était pas permis. Il était lui-même son propre garant. Il n'y avait pas de supercherie possible. Aussi tomba-t-il dans une profonde rêverie et restait-il des heures entières sur sa chaise, dans l'attitude d'un homme singulièrement perplexe. Vainement, Tom, le brave matou, venait-il frotter sa moustache contre sa main pendante, et Berthe lui demandait-elle, du ton le plus engageant,
« Pragmater, croyez-vous que la vendange sera bonne ?»
Partie 6. On n'avait aucune nouvelle de mon oncle. Un matin, Pragmater le vit raser, comme un oiseau, le sable de l'ailée du jardin sur le bord de laquelle ses soleils favoris penchaient mélancoliquement leurs disques d'or pleins de graines noires. Avec sa main d'ombre, ou son ombre de main, il essayait de relever une des fleurs que le vent avait courbée, et tâchait de réparer de son mieux la négligence des vivants. Le ciel était clair. Un gai rayon d'automne illuminait le jardin. Deux ou trois pigeons, posés sur le toit, se toilettaient au soleil. Une bise nonchalante jouait avec quelques feuilles jaunes, et deux ou trois plumes blanches, tombées de l'aile des colombes, tournoyaient mollement dans la tiède atmosphère. Ce n'était guère la mise en scène d'une apparition. Et un fantôme un peu adroit ne se serait pas montré dans un lieu si positif et à une heure aussi peu fantastique. Une plate bande de soleil, un carré de choux, des oignons montés, du persil et de l'oseille, à 11 heures du matin, rien n'est moins allemand. Jacobus Pragmater fut convaincu, cette fois, qu'il n'y avait pas moyen de mettre l'apparition sur le dos d'un effet de lune et d'un jeu de lumière. Il entra dans la cuisine, tout pâle et tout tremblant, et raconta à Berthe ce qui venait de lui arriver.
« Notre bon maître est mort !» dit Berthe en sanglotant. « Mettons-nous à genoux et prions pour le repos de son âme !»
Nous récitâmes ensemble les prières funèbres. Tom, inquiet, rôdait autour de notre groupe en nous jetant avec ses prunelles vertes des regards intelligents et presque surhumains. Il semblait nous demander le secret de notre douleur subite et poussait, pour attirer l'attention sur lui, de petits miaulements plaintifs et suppliants.
« Hélas, pauvre Tom !» dit Berthe en lui flattant le dos de la main. « Tu ne te chaufferas plus l'hiver sur le genou de monsieur, dans la belle chambre rouge, et tu ne mangeras plus les têtes de poisson sur le coin de son assiette. »
Le grillon ne chantait que bien rarement. La maison semblait morte. Le jour avait des teintes blafardes et ne pénétrait qu'avec peine les vitres jaunes. La poussière s'entassait dans les chambres inoccupées. Les araignées jetaient sans façon leur toile d'un angle à l'autre et provoquaient inutilement le plumeau. L'ardoise du toit, autrefois d'un bleu si vif et si gai, prenait des teintes plombées. Les murailles verdissaient comme des cadavres. Les volets se déjetaient. Les portes ne joignaient plus. La cendre grise de l'abandon descendait fine et tamisée sur tout cet intérieur naguère si riant et d'une si curieuse propreté. La saison avançait. Les collines frileuses avaient déjà sur leurs épaules les rousses fourrures de l'automne. De larges bancs de brouillard montaient du fond de la vallée, et la bruine rayait de ses grêles hachures un ciel couleur de plomb. Il fallait rester des journées entières à la maison, car les prairies mouillées, les chemins défoncés ne nous permettaient plus que rarement le plaisir de la promenade. Maria dépérissait à vue d'œil, et devenait d'une beauté étrange, ses yeux s'agrandissaient et s'illuminaient de l'aurore de la vie céleste. Le ciel prochain y rayonnait déjà. Ils roulaient moelleusement sur leurs longues paupières comme deux globes d'argent bruni, avec des langueurs de clair de lune et des rayons d'un bleu velouté que nul peintre ne saurait rendre. Les couleurs de ses joues, concentrées sur le haut des pommettes en petits nuages roses, ajoutaient encore à l'éclat divin de ses yeux surnaturels où se concentrait une vie près de s'envoler. Les anges du ciel semblaient regarder la terre par ces yeux-là. À l'exception de ses deux taches vermeilles, elle était pâle comme de la cire vierge. Ses tempes et ses mains transparentes laissaient voir un délicat lacis de veines azurées. Ses lèvres décolorées s'exfoliaient en petites pellicules lamelleuses. Elle était poitrinaire. Comme j'avais l'âge d'entrer au collège, mes parents me firent revenir à la ville, d'autant plus qu'ils avaient appris la mort de mon oncle, qui avait fait une chute de cheval dans un chemin difficile. Et s'était fendu la tête. Un testament trouvé dans sa poche instituait Berthe et Pragmater ses uniques héritiers, à l'exception de sa bibliothèque qui devait me revenir, et d'une bague en diamant de sa mère, destinée à Maria. Mes adieux à Maria furent des plus tristes. Nous sentions que nous ne nous reverrions plus. Elle m'embrassa sur le seuil de la porte et me dit à l'oreille.
« C'est ce vilain Pragmater qui est cause de tout. Il a voulu tuer le grillon. Nous nous reverrons chez le bon Dieu. Voilà une petite croix en perles de couleur que j'ai faite pour toi. Garde-la toujours. »
Un mois après, Maria s'éteignit. Le grillon ne chanta plus à dater de ce jour-là. L'âme de la maison s'en était allée. Berthe et Pragmater ne lui survécurent pas longtemps. Tom mourut, bientôt après, de langueur et d'ennui. J'ai toujours la croix de perles de Maria. Par une délicatesse charmante dont je ne me suis aperçu que plus tard, elle avait mis quelques-uns de ses beaux cheveux blonds pour enfiler les grains de verre qui la composent. Chaste amour enfantin si pur qu'il pouvait confier son secret à une croix.
Partie 7. Ces scènes de ma première enfance m'ont fait une impression qui ne s'est pas effacée. J'ai encore au plus haut degré le sentiment du foyer et des voluptés domestiques. Comme celle du grillon, ma vie s'est écoulée près de l'âtre, à regarder les tisons flamber. Mon ciel a été le manteau de la cheminée, mon horizon, la plaque noire de suie et blanche de fumée, un espace de 4 pieds où il faisait moins froid qu'ailleurs, mon univers. J'ai passé de longues années avec la pelle et la pincette. Leurs têtes de cuivre ont acquis sous mes mains un éclat pareil à celui de l'or, si bien que j'en suis venu à les considérer comme une partie intégrante de mon être.
La pomme de mes chenets a été usée par mes pieds et la semelle de mes pantoufles s'est couverte d'un vernis métallique dans ses fréquents rapports avec elle. Tous les effets de lumière, tous les jeux de la flamme, je les sais par cœur. Tous les édifices fantastiques que produit l'écroulement d'une bûche ou le déplacement d'un tison, je pourrais les dessiner sans les voir. Je ne suis jamais sorti de ce microcosme. Aussi, je suis de première force pour tout ce qui regarde l'intérieur de la cheminée. Aucun poète, aucun peintre n'est capable d'en tracer un tableau plus exact et plus complet. J'ai pénétré tout ce que le foyer a d'intime et de mystérieux. Je puis le dire sans orgueil, car c'est l'étude de toute mon existence. Pour cela, je suis resté étranger aux passions de l'homme. Je n'ai vu du monde que ce qu'on en pouvait voir par la fenêtre. Je me suis replié en moi. Cependant, j'ai vécu heureux, sans regret d'hier, sans désir de demain. Mes heures tombent une à une dans l'éternité, comme des plumes d'oiseaux au fond d'un puits, doucement. Doucement. Et si l'horloge de bois, placée à l'angle de la muraille, ne m'avertissait de leur chute avec sa voix criarde et éraillée comme celle d'une vieille femme, certes, je m'en apercevrais pas. Quelquefois seulement, au mois de juin, par un de ces jours chauds et clairs où le ciel est bleu comme la prunelle d'une anglaise, où le soleil caresse d'un baiser d'or les façades sales et noires des maisons de la ville. Lorsque chacun se retire au plus profond de son appartement, abat ses jalousies, ferme ses rideaux, et reste étendu sur sa molle ottomane, le front perlé de gouttes de sueur, je me hasarde à sortir. Je m'en vais me promener, habillé comme à mon ordinaire, c'est-à-dire en drap, ganté, cravaté et boutonné jusqu'au cou. Je prends alors dans la rue le côté où il n'y a pas d'ombre, et je marche les mains dans mes poches, le chapeau sur l'oreille et penché comme la tour de Pise. Les yeux à demi fermés, mes lèvres comprimant avec force une cigarette dont la blonde fumée se roule autour de ma tête en manière de turban. Tout droit devant moi, sans savoir où, insoucieux de l'heure ou de toute autre pensée que celle du présent, dans un état parfait de quiétude morale et physique. Ainsi je vais. Vivant pour vivre, ni plus ni moins qu'un dogue qui se vautre dans la poussière, ou que ce bambin qui fait des ronds sur le sable. Lorsque mes pieds m'ont porté longtemps, et que je suis las, alors je m'assois au bord du chemin, le dos appuyé contre un tronc d'arbre, et je laisse flotter mes regards à droite, à gauche, tantôt au ciel, tantôt sur la terre. Je demeure là des demi-journées, ne faisant aucun mouvement, les jambes croisées, les bras pendants, le menton dans la poitrine, ayant l'air d'une idole chinoise ou indienne, oubliée dans le chemin par un bonze ou un brahmine. Pourtant, n'allez pas croire que le temps ainsi passé soit du temps perdu. Cette mort apparente est ma vie. Cette solitude et cette inaction, insupportables pour tout autre, sont pour moi une source de voluptés indéfinissables. Mon âme ne s'éparpille pas au dehors, mes idées ne s'en vont pas à l'aventure parmi les choses du monde, sautant d'un objet à un autre, toute ma puissance d'animation, toute ma force intellectuelle se concentre en moi. Je fais des vers, excellente occupation d'oisif, où je pense à la petite Maria, qui avait des taches roses sur les joues. Fin de L'âme de la maison de Théophile Gautier. Enregistré et lu par Zécou à Tournai en Belgique durant avril 2015.